Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier bien sûr les organisateurs de m'avoir invité à prendre part à cette journée dont je mesure l'importance, je crois, quant au type de relations à établir entre des secteurs qui ne se sont pas complètement ignorés, bien sûr, hein, d'une certaine façon, Patricia le rappelait tout à l'heure, mais qui n'ont pas établi de contact extrêmement suivi et actif jusqu'à présent, hein, ceux qui touchent, disons, à cette promotion du plurilinguisme et de l'éducation plurilingue et interculturelle, et ceux qui ont trait à la scolarisation d'enfants catégorisés de manière extrêmement diverse, hein, comme le rappelle l'équipe qui a travaillé avec Daniel Frangi ici pour le projet EuroPEP, dans des systèmes éducatifs de différents pays européens. Mon positionnement ce matin, c'est essentiellement un positionnement, disons, à caractère semi-institutionnel, hein, en relation avec les travaux du Conseil de l'Europe, qui n'est pas une instance de recherche, qui est une instance, disons, à caractère intergouvernemental, avec tout ce que ça comporte de possibilités de tensions internes, d'ambiguïté, etc., dans les relations entre institutionnels, scientifiques, interventions, etc. Donc, ça sera mon point de vue avec une série de questionnements. Tout l'exposé est une sorte de questionnement, hein, en continu, dans la mesure où les questions de relation entre langue de scolarisation, éducation plurilingue et interculturelle sont loin d'être, très avancées. En ce qui concerne la réflexion et les propositions, disons, en cours actuellement à la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. Donc, tout ce que je vais dire est à la fois, disons, à caractère institutionnel et à caractère, disons, hésitant, hein, quant aux perspectives effectives. Je procéderai en deux temps, d'abord avec un petit regard rétrospectif pour essayer de pointer comment ces questions d'éducation plurilingue et interculturelle sont venues sur le tapis progressivement au Conseil, dans le cadre donc des activités de la division des politiques linguistiques, et puis dans un deuxième temps en essayant de caractériser un certain nombre de positionnements ou d'essais de positionnement qui caractérisent actuellement un projet qui s'appelle « Langue dans l'éducation, langue pour l'éducation », et à l'intérieur duquel vient d'être mise en ligne il y a quelques mois une plateforme sur le site du Conseil de l'Europe qui s'appelle « Plateforme de ressources et de références pour l'éducation plurilingue et interculturelle ». Ça se trouve facilement sur le site du Conseil et j'aurai la référence à la fin de mon PowerPoint. Pour la première partie de mon intervention, je m'appuierai sur quelques petites images. C'est pas ma spécialité, hein, donc c'est un caractère tout à fait artisanal et bricolé, mais enfin bon, ça correspond à la dimension hésitante, disons, de mon intervention. Et dans le deuxième temps, je n'aurai plus que ma seule voix et puis quelques notes pour continuer à m'aventurer dans des questionnements actuels. Alors, on va essayer de démarrer ça déjà. Alors, il y a à l'origine ce que rappelait tout à l'heure Patricia, à savoir l'effet, disons, cadre européen commun de référence pour les langues. Je serai très bref là-dessus, mais il me semble qu'il est important de rappeler un petit peu son positionnement et son ambiguïté initiale à certains égards. Bon, dans la lecture que j'en fais, le CECR a été au départ effectivement une proposition d'un étalon de référence, en quelque sorte, pour un objectif bien précis qui était celui de situer les unes par rapport aux autres des certifications internationales, des diplômes internationaux. Ça venait surtout d'ailleurs du domaine anglophone, avec des questionnements tournés vers Strasbourg qui étaient du type, écoutez, hein, pour l'anglais en particulier, c'est le cirque total, on se retrouve pas entre les certificats, les diplômes, ainsi de suite, personne n'y voit clair, hein, les employeurs, les usagers eux-mêmes, les apprenants, donc on aurait besoin de quelque chose qui soit un instrument de référence. Et au départ, disons, le travail qui a été fait, notamment par Brian North, est quelque chose qui avait cette fonction-là. Ça a été corrigé très vite, ou du moins complété très vite, par une deuxième dimension, plutôt, disons, insufflée par John Trim, qui était responsable des projets langues vivantes au Conseil, et qui consistait à dire, attention, attention, l'évaluation c'est bien gentil, mais c'est pas suffisant. il faut aussi s'interroger en termes d'état des lieux s'agissant, disons, de l'enseignement et de l'apprentissage. Et dans une perspective qui soit une perspective très ouverte, et d'autant plus ouverte qu'on était dans une période de post-89, donc d'ouverture du Conseil de l'Europe à des États qui n'en avaient pas fait partie jusqu'alors, qui avaient des traditions éducatives différentes. Et le souci de TRIM était de dire, bon, ben, il ne s'agit pas du tout d'avoir une technologie éducative qui serait transférée de l'Ouest vers l'Est, mais d'avoir un instrument qui soit un instrument de dialogue, donc qui a un caractère relativement œcuménique, un caractère relativement ouvert dans ce qu'il propose. En même temps, le souci était, complémentairement en quelque sorte, et là ça venait plus, disons, du côté de l'inscription dans la tradition antérieure des projets du Conseil de l'Europe, de défendre et de promouvoir la diversité linguistique, et surtout peut-être d'essayer de proposer des manières de diversifier la demande, la prise de langue dans des contextes scolaires. Hein, sur le constat que, d'une part, on avait un discours qui était un discours de promotion de la diversification, et d'autre part, on avait quelque chose qui était une tendance, disons, basculante vers un tout anglais au niveau des systèmes scolaires. Hein. Parfois, même sans deuxième langue étrangère obligatoire, ou même souvent sans deuxième langue étrangère obligatoire. Et le cadre européen commun, avec ses niveaux, visait au départ aussi à proposer, disons, un instrument permettant de calibrer différemment, en quelque sorte, l'offre de langue dans les contextes scolaires, de faire en sorte qu'on développe le cas échéant des compétences partielles et non pas des compétences maximalistes, disons, comme c'est souvent le cas dans les programmes. Donc d'avoir éventuellement des profils différenciés suivant les langues, enfin d'avoir quelque chose qui soit une économie curriculaire permettant cette diversification, disons, dans le cadre horaire global existant dans la plupart des systèmes. Bon, c'est à ce titre que la notion de compétence plurilingue a été introduite. Patricia était gentille tout à l'heure en disant que ça tenait compte d'un certain nombre de recherches. Moi, j'y vois plutôt à l'époque une espèce de coup de force didactique, disant, bon, bah, on va mettre sur le marché une notion comme celle-là, on verra bien ce que ça donne, en proposant essentiellement de dire, bon, on a certes des modèles comme ceux de la compétence bilingue ou comme celle de la définition donnée du côté recherche par ce que peuvent être des capacités non juxtaposé entre deux langues, mais est-ce qu'on peut étendre ça à quelque chose qui est beaucoup plus large en termes de plurilingue, avec l'idée simple aujourd'hui qu'on a affaire à un acteur social qui possède cette capacité de mobiliser un répertoire de langues et de variétés maîtrisées à différents degrés, et puis qui met en œuvre ce répertoire en fonction des situations auxquelles il est confronté et que ce répertoire évolue, disons, à l'épreuve des contextes auxquels il se trouve affronté. Ça avait au départ une dimension qui était essentiellement une dimension compétence plurilingue en contexte scolaire. Comment est-ce qu'on équilibre en gros l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Comment est-ce qu'on a des moyens pour équilibrer ces différentes langues et faire en sorte que les apprenants s'en emparent, disons, non pas à moindre coût, mais de façon à arriver à des résultats tangibles, validables, etc., et non pas maximalistes. Dans un deuxième temps, on s'est assez vite rendu compte, et c'est là peut-être que les travaux de recherche ont eu une importance, disons, incidente, non négligeable, qu'il fallait situer tout ça par rapport à, disons, des perspectives qui n'étaient pas simplement des perspectives scolaires, mais des perspectives qui étaient des perspectives de socialisation des élèves, avec des rappels qui sont des rappels élémentaires, disons, d'un point de vue sociologique, mais l'insistance sur des instances plurielles de socialisation, famille, groupe de pairs, environnement proche, communauté multiple, etc., médias, bien sûr, mobilité, bien sûr, et puis l'école, hein, ça va sans dire. Et puis une insistance sur ce qui est parfois appelé un paradigme de la pluralité, à savoir une volonté de resituer le plurilinguisme non pas tout seul dans son coin, et souvent à ce titre marginalisé, mais de le resituer, ce plurilinguisme, à l'intérieur, disons, d'un véritable paradigme des pluralités, pluralité des langues, mais aussi et pluralité des cultures, pluralité des identités, avec pour postulat complémentaire cette pluralité interne, en quelque sorte, pluralité des langues, mais toute langue est plurielle, ou pluralité des cultures et toute culture est plurielle, pluralité d'identité et toute identité est plurielle. Bon, ça relève encore une fois, disons, de l'assertion, de l'affirmation, mais du souci de repositionner en quelque sorte ce qui apparaissait comme étant une innovation institutionnelle ou didactique dans un cadre plus large, disons, d'évolution du monde contemporain ou de certains types de regards sur le monde contemporain. Ça va aussi à s'interroger sur les relations entre identité et altérité, bien sûr, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure à propos du culturel et l'interculturel. Bon, là aussi, hein, considérant que dans la relation à l'altérité, on passe progressivement, disons, en didactique, et pas simplement en didactique, j'espère, d'une définition de l'autre comme étant nécessairement un autre qui est de l'autre côté d'une frontière, à quelque chose qui est la pluralité interne, hein, les autres en moi, en passant par, bien sûr, les autres à côté de moi. Tout cela, encore une fois, sous forme, disons, plutôt de slogan que de choses véritablement argumentées, étayées fortement, mais ça repose à l'évidence sur un certain nombre d'orientations, d'options, de convictions. Bon, en quoi est-ce que tout ça nous conduit vers une éducation plurilingue et interculturelle ? Ça passe évidemment pas seulement par le cadre européen commun et ses évolutions, mais par le travail réalisé par Jean-Claude Béaco et Michael Byram, hein, le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, où on va voir de plus en plus s'introduire non plus seulement les langues étrangères, hein, qui étaient quand même l'objet central du cadre européen commun de référence, avec l'ambiguïté sur la compétence plurilingue. Parce qu'on dit compétence plurilingue, c'est l'ensemble des ressources disponibles, donc ça inclut la langue de scolarisation, mais c'est pas tellement souligné en tant que tel dans le cadre lui-même, hein, c'est pas véritablement thématisé. Dans le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques, ça apparaît beaucoup plus nettement, bien sûr. Alors, on en arrive à un petit schéma qui est plutôt le schéma, disons, dominant actuel, hein, dans les travaux du Conseil. J'en ai une version, là, qui n'est pas la version que vous trouverez éventuellement, que vous avez trouvé sur le site du Conseil, hein, qui vise à positionner un ensemble, disons, de manifestations langagières présentes dans l'école, avec une disposition qui n'est pas tout à fait aléatoire non plus. Le petit rectangle vert en haut, hein, langue de l'éducation et variété présente dans l'école, il est reformulé actuellement plutôt en termes de qu'est-ce que les apprenants, hein, qu'est-ce que les élèves d'un système éducatif apportent, hein, comme langue dans le système éducatif, hein. Et avec comme postulat fondamental que si on parle de langue de l'éducation et de langue dans l'éducation, tous les répertoires qui sont apportés par les apprenants eux-mêmes dans le système éducatif sont des langues de l'éducation, font partie, hein, du processus d'éducation. Une fois qu'il s'agisse de la pratique en cours de récréation d'enfants de la migration qu'éventuellement personne d'autre qu'eux ne comprend dans cette cour de récréation, hein, ça fait partie aussi pour l'ensemble de la population scolaire, dans ce type de postulat, des langues de l'éducation. La langue dite ici majoritaire officielle de scolarisation a une position centrale dans le dispositif. Et vous voyez qu'elle se subdivise, hein, les deux petits rectangles en bas de course, entre langue comme matière, donc langue comme discipline, hein, bon, le français dans le cursus français, le polonais dans le cursus polonais, etc. Et puis langue d'enseignement d'autres disciplines, bon, ben, les vecteurs simplement dans les disciplines pour lesquelles la langue officielle, disons la langue majoritaire, la langue de scolarisation, donc, est principalement mobilisée. Dans une perspective européenne, bien sûr, tout ce qui est langues et variétés régionales, minoritaires, migration, apparaît, ainsi que les langues et variétés étrangères, vivantes ou classiques, hein, telles qu'elles sont proposées par les curricula. Ce qui manque ici dans ce petit schéma, c'est le fait qu'on a aussi des espèces de petits pointillés qui relient les langues et variétés régionales, minoritaires, etc., et aussi des langues étrangères, la distinction entre langue comme matière et langue d'enseignement d'autres disciplines, pour tenir compte du fait que dans certains contextes, les langues régionales peuvent très bien être aussi un vecteur de construction de disciplines, ou les langues étrangères dans des systèmes d'enseignement bilingue, etc. Donc tout ça est relativement élémentaire, mais je crois que tout le questionnement, si vous voulez, langue dans l'éducation, langue pour l'éducation, se positionne à partir de là, hein, avec en fait des interrogations qui sont croissantes et qui sont loin d'être résolues, quant au mode de relation entre ces différentes cases. L'important tout de même peut-être, c'est que dans ce jeu, on voit que l'éducation plurilingue et interculturelle apparaît là comme étant prioritairement, si je peux dire, une question de mise en relation entre les répertoires des apprenants et puis la langue de scolarisation majeure. Si je fais ça, ça ne sera pas bon. Alors, on est amené à poser en fait très vite. J'en suis où là ? Ça va ? Un quart d'heure ?
Oui,
oui, 15 minutes. Poser très vite la question en fait du rapport possible entre ce qu'on entend par éducation plurilingue et interculturelle, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure, et puis, disons, des finalités classiques, standards de tout système éducatif. Là, ils sont présentés sous forme de 5 ou 6 types de finalités, savoir, savoir-faire, attitude, etc., la construction identitaire des acteurs sociaux, le développement d'une société de la connaissance, ça c'est plutôt côté, disons, Lisbonne et autres, et plutôt Union européenne que Conseil, mais c'est également intégrable, citoyenneté démocratique participative, inclusion et cohésion sociale, et puis, faire en sorte que le maximum d'enfants s'en sortent et réussissent. Alors, si j'ai souligné en bleu le dernier point, c'est que, me semble-t-il, c'est probablement le plus problématique dans la relation entre langue de scolarisation et éducation plurilingue ou éducation au plurilinguisme, si on fait la distinction. Je crois qu'on peut argumenter assez facilement aujourd'hui le fait que, pour la plupart des finalités qui précèdent, les 5 premières, disons, une éducation plurilingue et interculturelle peut constituer un plus. Qu'il s'agisse des savoirs à construire, qu'il s'agisse de la construction identitaire, qu'il s'agisse de la citoyenneté européenne, etc., qu'il s'agisse à l'évidence de l'inclusion, de la cohésion sociale, une éducation qui serait non pas centrée sur une langue unificatrice, mais sur une éducation beaucoup plus ouverte à la pluralité, dans des conditions à définir de mise en œuvre, et plutôt à considérer comme un plus pour le 21e siècle. La question sensible, c'est est-ce que mettre l'accent sur ces dimensions est de nature ou pas à inclure tout le monde, justement, dans le processus scolaire. Est-ce que ça n'est pas, dans certains cas, une source possible de difficultés supplémentaires pour une partie des publics scolarisés ? Alors, je crois que tout ça, ça se situe aussi à différents niveaux. Certains, par exemple, dans tout ce qu'on entend dire à propos des approches plurielles de l'apprentissage, se positionnent plutôt au niveau didactique et au niveau méthodologique. On peut situer aussi la question en termes plus de politique éducative globale, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Bon, à l'évidence, il faut une complémentarité entre ces deux niveaux d'analyse et d'intervention. Il est clair aussi que tout ce qu'on entend par éducation plurilingue, etc., dans l'espace éducatif européen, a à être situé, et de façon souvent tendue, conflictuelle, par rapport à des démarches en cours, des interventions qui pèsent, du type tout ce qui est lié aux compétences clés, tout ce qui est lié à PISA, à PIRLS, etc., tout ce qui est lié à la dynamique de Lisbonne au sens large, et puis questionnements qui sont plus alors du côté du Conseil de l'Europe, comme le droit à une éducation en termes de valeurs, droit à une éducation de qualité, droit à une éducation équitable. Un forum qui doit se tenir à Genève en novembre prochain porte sur l'éducation plurilingue et interculturelle dans ses relations avec la langue de scolarisation et sous l'angle en particulier de qualité et équité. Donc on voit bien qu'on s'oriente vers des questionnements qui vont recouper ceux de l'éducation prioritaire. Je passe là-dessus parce que je pense que ça serait un autre débat, c'est plutôt les questions d'intégration curriculaire sur lesquelles je reviendrai un petit peu tout à l'heure et puis qui seront sans doute abordées cet après-midi dans la table ronde. Alors, la question donc, je crois que c'est de s'interroger sur la relation entre la langue de scolarisation posée comme langue comme matière et langue dans les autres matières, disons, Et puis, ce développement de l'éducation plurilingue, en quoi est-ce que d'un côté ou de l'autre, on peut parler d'obstacle ou d'atout ? Est-ce que l'éducation plurilingue et interculturelle, ça peut être un plus pour la langue de scolarisation ou un obstacle ? Et est-ce que la langue de scolarisation, selon les manières dont elle est traitée, ça peut être un plus pour une éducation plurilingue et interculturelle ou éventuellement un obstacle ? Je crois que, à partir des expériences des uns et des autres, on voit bien que la question ou les questions se posent effectivement d'un sens comme de l'autre. En particulier parce que dans un contexte comme le contexte français, on reste quand même très dominé par une conception de la langue de scolarisation comme commune, comme unifiée, comme homogène, malgré tous les efforts qui ont pu être faits pour insister sur la diversification, sur la pluralité interne de la langue. Je crois qu'il y a quand même véhiculé par les programmes, véhiculé par un certain nombre d'orientations didactiques, ce type de représentation, dont on peut estimer qu'il n'est pas exactement favorable à une éducation plurilingue et interculturelle. Alors tout ça tourne bien sûr autour du vieux questionnement sur les rapports entre normes et variations. Fondamentalement, est-ce qu'on considère que on est dans un paradigme qui consiste à dire fondamentalement les phénomènes langagiers, c'est de la variation avec des normes qui viennent s'appliquer sur cette variation constitutive et puis normes en quelque sorte ajoutées et variables, ou est-ce qu'on est dans un dispositif qui considère que fondamentalement on a affaire à une norme et que des variations s'introduisent éventuellement par rapport à cette norme. Bon, je crois que caricaturé de cette manière, on voit bien comment des positionnements très, très différents peuvent se développer. Bon, il est clair que dans la perspective que j'évoquais jusqu'à présent, la langue de scolarisation doit être, pour se trouver en cohérence avec l'ensemble du dispositif qu'on évoque, doit être pensée comme un espace de pluralité régulé, comme un espace de variation, avec des règles bien sûr qui s'appliquent, mais comme étant fondamentalement un espace de variation. Alors, les deux principes qui apparaissent à partir de là, on ne peut pas faire l'impasse sur l'angle de scolarisation quand on parle d'éducation plurilingue et interculturelle, ça c'est clair, c'est incontournable. Mais on ne peut pas non plus rejeter complètement l'éducation plurilingue et interculturelle au nom, disons, des progrès dans la langue de scolarisation pour un certain nombre de publics à risque ou de publics vulnérables, comme on dit parfois. Il y a tout un questionnement dans le rapport qui a été fait ici, ou qui a été coordonné ici à propos de l'éducation prioritaire sur ces terminologies et ces catégorisations. Donc, langue de scolarisation évidemment incontournable, mais en même temps nécessité de s'ouvrir à la pluralité. Donc le défi, c'est ce qui apparaît en gras ici, faire en sorte que ce qui se pratique en dehors et à côté de la langue de scolarisation bénéficie à cette dernière, et en même temps faire en sorte que la manière dont la langue de scolarisation est travaillée ouvre sur la pluralité. Bon, alors, c'est vite dit, ça relève en quelque sorte du slogan, mais bon. Alors, une autre petite image, tout à fait discutable, mais présentant les choses un petit peu différemment. À savoir que on peut penser en quelque sorte le processus de scolarisation comme étant une extension progressive du répertoire de l'élève, qui, au moment de son arrivée à l'école, comporte un certain nombre d'intersections avec des domaines qui sont soit des domaines scolaires, soit des domaines d'usage sociaux. Bon, le tout se recoupant, bien sûr. Les zones d'intersection, là, elles sont arbitrairement définies. Il faudrait mille et un schémas de ce genre pour rendre compte de la diversité des apprenants et de la diversité des intersections. Mais en gros, le processus, là, c'est de considérer que le répertoire de l'élève, cette petite zone qui apparaît là, doit être étendu progressivement, notamment dans le contexte scolaire, c'est un des rôles évidemment majeurs de l'école, du côté des langues étrangères, du côté de la langue comme matière, etc., etc. Et on voit bien que, suivant les profils d'entrée et suivant les choix éducatifs qui sont faits, ce type de grignotage progressif et d'enrichissement progressif peut donner lieu à des variations considérables. Alors, je vous donne l'adresse, là, simplement, des sites. On s'y retrouve assez facilement sur coe.int, hein, et puis une recherche sur Google vous amène assez vite à tout ça. Donc il y a pas mal de documents sur la plateforme d'éducation plurilingue interculturelle. J'en viens maintenant à mon deuxième temps, très rapidement, avec des questionnements. Oui, 5-6 minutes. Bon, bah, ça va. Qui vont un petit peu plus peut-être dans des interrogations, disons, actuelles là-dessus. Alors, je crois qu'il y a un souci, évidemment, de prendre en compte la situation des publics dits à risque ou des publics dits vulnérables, etc., au titre des valeurs du Conseil de l'Europe, au titre en particulier de tout ce qui est droit à une éducation de qualité, droit de l'homme en général, bien sûr, droit des minorités dans certains cas, droit des migrants, etc., hein, de faire en sorte que tout cela soit, en quelque sorte, mise en œuvre dans des propositions, des instruments à venir qui tiennent compte plus particulièrement ou tout particulièrement de ces publics. Alors je passe sur la question de leur catégorisation. Hein. Il y a eu des flottements multiples dans la manière de désigner ces publics à l'intérieur même des travaux du Conseil, hein, entre public à risque, public vulnérable, milieu socioculturel défavorisé, issus de la migration, enfin bon, tout ça avec des recoupements et des variations dans le temps. Je n'insiste pas là-dessus. Mais le choix fondamental, en quelque sorte, c'est de faire en sorte, c'est quelque chose qui réapparaît dans le rapport EuroPEP qui sera discuté, je crois, en partie cet après-midi, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de marginalisation dans les catégorisations, mais qu'on ait en quelque sorte des, je dirais pas des modèles, mais enfin en tout cas des types de points de vue qui permettent de situer ces publics dans la cohérence d'ensemble de l'école et non pas en les mettant résolument à part. Bon, avec pour postulat bien sûr que ce sont des publics qui vont demander sans doute plus, hein, qui vont demander autrement peut-être, mais qu'il ne s'agit pas du tout d'isoler en quelque sorte, de marginaliser comme tel. Alors, s'agissant évidemment de l'entrée essentiellement langagière, hein, il ne s'agit pas de se situer sur le terrain, disons, social général des territoires, des banlieues, etc., s'agissant du Conseil de l'Europe, en tout cas pour la division des politiques linguistiques, on est amené à se positionner d'une manière ou d'une autre par rapport à cette idée d'une diversification de la langue de scolarisation, essayer de l'argumenter un peu plus. Alors, il y a bien sûr des subdivisions classiques, hein, du genre, par les grandes fonctions, de type fonction sociale, fonction régulatrice, fonction cognitive, hein, c'est utilisé par certains travaux, par certains collègues, hein, bon, montrer que la langue de scolarisation, elle a aussi des usages sociaux ordinaires dans l'école, elle a des usages qui sont des usages de type régulateur, etc., et puis elle a des usages qui sont plus de construction, disons, des connaissances, hein, ou des compétences, bon. Quand tout ça interfère, hein, quand par exemple les usages sociaux ou les usages de type régulation sont constamment mobilisés alors qu'on devrait faire autre chose du point de vue cognitif, bon, ça pose des problèmes. Mais en tout cas, ce type de différenciation correspond aussi à des différenciations internes du fonctionnement langagier qu'il importe de rappeler. Bon, différenciation aussi suivant les disciplines. Alors, ou bien on considère ça simplement en termes de lexique, ou bien on considère ça en termes de genre. Hein, de formats communicationnels différenciés, en termes de type de ressources utilisées par telle ou telle discipline. Donc, tout cela peut donner lieu à, disons, des descriptions insistant sur des modes de variabilité dans la langue de scolarisation, en fonction des fonctions qu'elle a dans l'école, mais en fonction aussi des différentes disciplines et des types de savoirs qu'elle construit. Hein. Différenciation aussi liée à la construction même des savoirs, si on pose par hypothèse que, dans la plupart des systèmes éducatifs, heureusement, la construction des connaissances se fait par le biais de reformulations, de changements de mode, de changements de registre, etc., etc. Donc on a aussi là une variation qui est constitutive, en quelque sorte, du travail scolaire. Bon, tout ça argumentant, en quelque sorte, à l'encontre d'une représentation d'une langue de scolarisation comme une et indivisible, hein, homogène de part en part, etc., et proposée comme modèle impératif. Ça amène aussi à se positionner par rapport à des types de traitements, en quelque sorte, des publics dont il est question ici, en termes de, il faut De toute façon, s'agissant par exemple d'élèves d'origine étrangère, une bonne maîtrise de la communication langagière de base, et puis si on n'a pas quelque chose qui est par exemple du type au moins B2, voire au moins B1, voire B2 dans les niveaux communicationnels du cadre européen commun, c'est peut-être pas la peine de lancer ces gosses dans le système scolaire, ils vont pas surnager. Bon, y a aussi, à mon avis, dans le même type de logique, même si c'est sur des postulats tout à fait différents, l'idée d'un retour au basique à chaque fois, hein, qu'il faut reprendre à zéro, en quelque sorte, hein, penser à Bentolila et à quelques autres comme ça, hein, ce qui va se passer du côté du contexte scolaire par rapport à des populations qu'on considère comme étant des populations, disons, à trop grande distance, hein, des normes scolaires. Je crois que dans les deux cas, on a des dispositifs qui, pour le coup, sont rejetés, je crois, écartés par ce qui se fait actuellement au niveau du Conseil. Également, positionnement assez complexe, me semble-t-il, par rapport à des hypothèses de type code restreint, code élaboré, tel que ça a pu être utilisé, hein, pas nécessairement dans les textes même de Bernstein, mais dans les usages qui en ont été faits, avec l'idée que, du côté des populations sur lesquelles on focalise, là, il ne s'agit pas du tout de considérer qu'il y a des codes restreints, mais il s'agit de considérer qu'il y a un ensemble de pratiques langagières, complexes souvent, qui se trouvent simplement en décalage par rapport à certaines des variétés qui sont dominantes dans le contexte scolaire. Positionnement aussi à déterminer par rapport aux travaux de Cummins dans leurs variantes successives, hein, aussi, mais notamment par rapport à la distinction entre Bix et Kalp, hein, dans la mesure où il s'agit de bien prendre conscience du fait que dans le fonctionnement scolaire ordinaire, c'est pas simplement du Cognitive Academic Language Proficiency qui est à l'œuvre, mais qu'il y a constamment, à l'intérieur même de cette dimension académique, un travail qui relève aussi des capacités communicationnelles, disons, interactionnel. Une minute, deux minutes, ok. Bon, on va en finir. Alors, bon, ben en fait, je peux accélérer en signalant que tout ça peut aboutir en fait à des interrogations qui sont loin d'être partagées actuellement au sein même de la division des politiques linguistiques, et je crois que ça fait partie des débats en cours, sur la notion peut-être de communauté de pratique comme étant mobilisable fortement dans ce genre de réflexion. À savoir, essayer de s'interroger sur le fait que tout apprenant qui arrive à l'école est déjà membre d'un certain nombre de communautés de pratique, hein, familiales, les pères, etc., bon, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ces différentes communautés de pratique étant possiblement considérées comme étant des formes de culture, dans la mesure où elles sont régies par des normes, éventuellement par des conditions d'entrée, des conditions de transmission, etc. Donc on peut les lire, si vous voulez, en termes de culture aussi, mais caractérisées aussi par des pratiques communicationnelles, des genres familiaux, liés au groupe de jeunes, etc., etc., et que tout ça constitue un certain type de rapport, non pas worfien, hein, mais, disons, lié aux pratiques elles-mêmes, entre pratiques langagières et pratiques culturelles, disons, oui, représentations culturelles. Donc jusqu'où va-t-on dans ce sens-là, hein, en termes, disons, de unifiant, en quelque sorte, hein, pour l'ensemble des publics scolaires, en les posant comme étant dotés, déjà au moment où ils arrivent à l'école, d'un certain nombre d'expériences et de compétences plurilangagières, disons, et pluriculturelles, hein, avec à l'évidence, sinon ça serait invivable, des zones de recoupement entre ces différentes pratiques. Donc on est sur un terrain à la fois du transculturel et de l'interculturel, mais un interculturel peut être redéfini à ce moment-là. Et la question est de savoir comment l'école traite tout ça. Dans la mesure où l'école va introduire par ailleurs à de nouvelles communautés de pratiques, notamment par le biais des disciplines, si on pose que toute discipline, dans son fonctionnement, disons, ordinaire, opère aussi en tant que communauté de pratique, avec ses règles, avec ses normes, avec ses genres, etc., etc. Bon, comment est-ce que tout ça aboutit, disons, à un modèle relativement unifié, mais comment est-ce que tout cela aboutit aussi à quelque chose qui peut paraître satisfaisant dans la mesure où ça ne va pas marginaliser les enfants, hein, mais ça va poser des problèmes de décalage, éventuellement, entre leur richesse propre et puis ce que l'école attend. En même temps, on est sur un terrain qui est un terrain, disons, possiblement du fractionnement excessif dans les représentations qu'on propose, qui ont une vertu, me semble-t-il, un petit peu décapante par rapport à des conceptions très binaires, langue, culture, etc., mais qui posent d'autres types de problèmes par la pluralité au niveau conceptuel, disons, qu'elles introduisent, et au niveau didactique aussi, ultérieurement. Je termine avec mention de deux ou trois chantiers qui sont véritablement en cours actuellement autour de ces questions-là, et ça nous ramène d'une certaine manière sur les questions du cadre européen commun. Le premier, c'est celui du statut des descripteurs, voire des standards, dans toute cette perspective. Il est clair qu'on ne peut pas faire l'économie d'une interrogation sur ce que peuvent être des descripteurs liés à, par exemple, des socles de compétences, liés à des objectifs à atteindre, voire dans certains contextes sur des standards, au sens relativement fort du terme, standards minimaux, standards plus ou moins profilés, donc tout ça donne lieu à des débats, je dirais, assez vifs, avec nécessité, ça a été fait dans le cadre d'ailleurs de l'INRP aussi, là, dans certains des rapports qui circulent de l'INRP, des études de littérature ambiante, nécessité de distinguer entre des standards de performance, des standards de contenu, des standards de connaissances, disons, et puis des standards d'opportunités d'apprentissage, si on pose que ce qui importe aussi de déterminer, ce sont des conditions permettant aux apprenants d'avoir les expériences éducatives les orientant vers tel ou tel type de performance possible, de connaissances possibles. Ça, c'est un des chantiers. C'est très lié à un autre chantier qui est celui d'une interrogation sur les curricula ou les curriculums. Comment est-ce qu'on peut penser des scénarios curriculaires, des conceptions de curricula qui tiennent un petit peu à cette dimension éducation plurilingue et interculturelle. Le questionnement central, c'est comment est-ce qu'on met en relation différents types d'expériences langagières là-dedans. Comment est-ce que, par exemple, au niveau primaire, on établit des liens entre l'introduction de la langue étrangère et puis ce qui se passe du côté de la langue de la scolarisation, aussi bêtement que ça. Mais bon, ça se complexifie bien au-delà. Et puis, troisième chantier qui retrouve aussi, d'une certaine manière, les étapes précédentes, c'est l'interrogation sur l'évolution d'instruments comme les portfolios. En quoi est-ce que des portfolios revisités peuvent intégrer la langue de scolarisation? En quoi est-ce qu'ils peuvent devenir des instruments permettant une réflexivité importante et pas simplement des instruments de mesure? En quoi est-ce qu'ils peuvent être des aides à l'autonomie et des aides à la mise en relation entre les différentes expériences langagières que propose l'école? Alors que dans bien des cas jusqu'à présent, les portfolios fonctionnaient encore de manière relativement cloisonnée, disons, langue par langue.